Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la ministre des Solidarités et de la Santé. Questions et réactions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application d'Inter. Agnès Buzyn, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Ce matin, quelques mots de politique avant de parler des dossiers que vous portez en ce moment. Quelques mots sur le paysage politique issu des européennes. Au fond, la grande nouveauté, Agnès Buzyn, n'est-ce pas le passage du duopole LREM, Rassemblement National, à une configuration à trois pôles, à trois têtes, avec une gauche dont le poids additionné s'établit à plus de 20% aujourd'hui? Est-ce une bonne nouvelle pour la démocratie que cette gauche, certes divisée, soit en train de réémerger?
Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie d'avoir des sensibilités politiques qui soient bien exprimés et qui permettent un débat démocratique. Donc aujourd'hui, la gauche, nous le savons, se cherche. En réalité, elle s'est traduite par de multiples partis aux élections européennes. Et donc, c'est important que nous ayons la capacité, ou que les citoyens aient la capacité de se retrouver dans des leaders et des partis qui portent leurs idées. Aujourd'hui, on voit bien que le paysage est très dispersé et cela nuit aujourd'hui à notre capacité à débattre dans le fond des sujets qui nous intéressent. Je pense évidemment aux sujets politiques classiques, à l'écologie, qui est un vrai débat pour l'avenir, et nous avons besoin d'opposants structurés pour nourrir ce débat.
L'autre enseignement, c'est le basculement du socle électoral de La République en marche. Emmanuel Macron a perdu 25% de ses électeurs du premier tour de la présidentielle qui ont préféré voter soit écolo, soit à gauche. Il les a compensés en prenant massivement à la droite. Est-ce que vous prenez acte du changement de votre base électorale? Et est-ce que vous, venant de la gauche, vous regrettez de désormais moins parler aux Français de gauche qu'aux Français de droite?
Alors, je pense que c'est faux. Je pense que nous avons fait des réformes extrêmement bien perçues à gauche, même si elles n'ont pas eu l'écho que je souhaitais dans l'opinion publique parce qu'elles ont été peu médiatisées. Mais je pense à tout ce que nous faisons pour lutter contre le déterminisme social dans le plan de lutte contre la pauvreté, pour donner à chaque enfant les mêmes chances. Je pense à ce que fait évidemment Jean-Michel Blanquer pour l'école, pour effectivement permettre à chacun de s'en sortir par l'éducation et par la formation.
Et comment vous expliquez que ce soit moins perçu, en tout cas là, arithmétiquement, si on prend la photographie de ces élections européennes, qui a voté quoi? Eh bien, manifestement, il y a un basculement électoral vers la droite.
Il y a un basculement dans les élections européennes, mais il y avait un multiple choix aussi pour l'électorat de gauche. Je pense qu'il faut que nous arrivions à faire mieux passer toutes les réformes, mieux entendre toutes les réformes que nous faisons aujourd'hui en faveur des personnes les plus vulnérables, les plus défavorisées. Je pense par exemple à ce que j'ai fait pour le 100% santé, c'est-à-dire le fait qu'on accède à des soins, lunettes, dentaires, sans reste à charge, audioprothèses. C'est une réforme que tous les ministres de la Santé rêvait de faire depuis 40 ans. C'est une réforme profondément sociale. C'est un coût pour les ménages très important. Et cela, aujourd'hui, ça doit parler aux électeurs de gauche. Et nous allons continuer parce que, en réalité, La République En Marche, ce mouvement, il fait adhérer des personnalités qui viennent de la droite et de la gauche. Et nous portons
Et aux électeurs, ensuite, de faire leur choix et de voir ce qu'il en est. Jean-Yves Le Drian, disait à ce micro la semaine dernière que le pôle social, l'aile gauche, en quelque sorte, du macronisme, devait plus faire entendre sa voix à l'Assemblée comme au gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui, je suis d'accord parce qu'en réalité, ce que j'ai perçu alors que les mesures qui ont été prises, notamment dans mon ministère, mais je pense aussi à celui de Jean-Michel Blanquer, sont des mesures qui devraient parler normalement aux personnes les plus en difficulté, elles n'ont pas été suffisamment entendues. Donc nous devons être probablement plus puissants dans la capacité à faire entendre que nous travaillons aussi pour les personnes qui ont le plus de difficultés financières. Mais même dans la loi Pacte, ce que porte Bruno Le Maire sur l'actionnariat des personnes qui travaillent aujourd'hui dans les grandes entreprises, ce sont des mesures qui devraient parler à tout le monde. Or, aujourd'hui, on colle à ce gouvernement et au mouvement La République En Marche une image à droite, une image en faveur des grandes entreprises. Nous sommes en faveur des entreprises, évidemment, pour relancer la croissance et relancer l'économie. Mais il y a le « en même temps » et nous sommes extrêmement attentifs aux personnes aujourd'hui les plus en difficulté.
Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, fait relais ce matin dans Le Figaro une petite musique qu'on entend depuis quelques jours dans la majorité. Il dit ce matin, il impose aux maires LR ses conditions pour les municipales. On ne travaillera pas avec les maires LR qui ont soutenu François-Xavier Bellamy, prévient-il, donc punition. Il y a quelques jours, le désormais député européen de la majorité, Gilles Boyer, disait un maire qui sera élu sans l'apport de LREM ou du Modem sera, je cite, un ennemi du président. Il s'est excusé pour cette phrase, mais la philosophie est la même. On a l'impression que vous voulez museler toute forme d'opposition républicaine. Il ne doit rien avoir entre vous, La République En Marche, et le Rassemblement National.
Non, je pense qu'il y a juste une clarification des postures. Et je pense que ce message s'adresse à quelques maires qui étaient proches du gouvernement avec lequel il nous semblait très facile de travailler, qui au dernier moment, pour des raisons purement électorales, ont publié des tribunes pour, dans la presse, clamer leur adhésion à François-Xavier Bellamy avec ce conservatisme que nous connaissons et des idées qui sont, nous le savons, également partagées par l'extrême droite en ce qui concerne le social.
Donc il faut les punir et plus travailler avec eux, c'est ça ?
Non, c'est pas les punir, mais il faut clarifier. Est-ce que vous souhaitez travailler avec le gouvernement ? Est-ce que vous êtes en phase avec le réformisme, avec le progressisme ? Est-ce qu'on peut compter sur une opposition qui ne soit pas systématique ? Aujourd'hui, en réalité, il y a une opposition systématique au niveau des LR qui n'est pas très constructive. Mmh. Or, nous savons qu'il y a des mesures qu'on peut porter ensemble.
Et en face, on voit vous proposer le progressisme un peu autoritaire.
Non, pas autoritaire. Bah, au contraire, nous ouvrons... Pas du tout, il n'est pas autoritaire.
Punir des opposants pour cette être opposé à avoir fait des choix politiques.
Écoutez,
ou intellectuels.
Moi, je vois une opposition
une petite pointe
LR
d'autoritarisme,
à l'Assemblée.
Non,
je vois une opposition LR à l'Assemblée qui est très dogmatique et qui s'oppose systématiquement à toutes les réformes, alors que certaines réformes auraient pu être portées par eux. Et c'est pareil au niveau du Parti Socialiste, où certaines réformes auraient pu tout à fait être votées. Je pense à toutes ces réformes sociales dont je parlais, auraient pu être votées par la gauche. Et cette volonté d'être un opposant systématique nuit à la réforme que nous mettons en œuvre pour le pays, en réalité. Donc nous souhaitons un peu plus d'ouverture d'esprit.
Il est 8h30, Agnès Buzyn, on en vient à vos dossiers. Malaise aux urgences, un mouvement de grève perdure depuis 2 mois. Une manifestation nationale est prévue ce jeudi à l'appel du collectif Interurgence et avec le soutien des syndicats. À part la câlinothérapie et les mots doux, que mettez-vous sur la table pour dissiper ce malaise ?
Alors, d'abord, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table pour l'hôpital public l'année dernière et cette année. Nous avons mis plus de 500 millions d'euros supplémentaires l'année dernière pour l'hôpital. Nous avons augmenté les tarifs hospitaliers cette année. D'ailleurs, la dette des hôpitaux s'est quasiment réduite de moitié en fin d'année dernière parce que nous avons mis énormément d'argent, ce qui permet aux hôpitaux de retrouver un peu de souffle. Mais au-delà de l'argent, nous avons impérativement besoin de restructurer la médecine de ville, c'est-à-dire la médecine libérale, les médecins généralistes, pour qu'ils puissent prendre en charge plus de patients en amont des urgences. Aujourd'hui, l'engorgement aux urgences est essentiellement lié au fait que les patients ne trouvent pas de médecins capables de les prendre, notamment sans rendez-vous. Et la loi de santé que je porte aujourd'hui au Sénat est une loi qui vise justement à mieux structurer en amont des urgences le fait que les personnes puissent accéder à des soins sans rendez-vous.
Mais comment vous expliquez que les urgentistes, les personnels des urgences ne soient pas convaincus par ça ?
Je comprends leur impatience. Le nombre de passages aux urgences a doublé en 20 ans. Nous sommes à 20 millions de passages. Ils reçoivent surtout en fin de journée énormément de monde. Ils sont débordés et donc je l'entends. Nous avons un impératif, c'est de dégager en amont, le fait que les personnes ne se rendent pas aux urgences de façon inappropriée alors qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas une maladie vitale. Et donc nous avons besoin d'organiser mieux la médecine de ville, c'est ce que je fais avec la loi. Et nous avons besoin de travailler aussi sur l'aval, c'est-à-dire le fait qu'on dégage plus rapidement des personnes pour qu'elles rentrent dans les services conventionnels. Je l'entends.
Il faut moins
je
aller aux urgences, c'est ce que vous dites ce matin, c'est ça la solution.
Je dis surtout à tous les Français qui le peuvent, évidemment, il y a des endroits où il n'y a pas de médecin, et donc je l'entends, mais tous ceux qui le peuvent, d'éviter d'aller aux urgences quand on peut essayer de trouver un rendez-vous avec un médecin généraliste, dans un centre de santé, dans une maison de santé, pour dégager un peu plus de temps pour les urgentistes. Je les reçois régulièrement. Ils attendent une initiative pour repenser les urgences de l'avenir, en fait, et je travaille avec eux sur ces perspectives.
Madame la Ministre, il y a eu une grève surprise cette nuit à l'hôpital à la Riboisière à Paris, une dizaine d'infirmiers et d'infirmières ne sont pas venus travailler, ce qui est rarissime, puisqu'en général, aux urgences, on met un brassard quand on est en grève, mais on vient travailler. Là, cette nuit, ils ne sont pas venus travailler. Du coup, les pompiers et le SAMU ont dû conduire certains malades vers d'autres hôpitaux, beaucoup plus loin, avec le risque que ça veut dire. Est-ce que ça ne dit pas l'état de saturation des personnels urgentistes, ce qui s'est passé cette nuit à la Riboisière?
Oui, moi, je pense qu'il y a évidemment une très grosse fatigue des personnel aux urgences, je l'entends. J'y travaille puisque la loi passe au Sénat et elle vise justement à améliorer la situation pour les urgences en structurant et en permettant à chacun d'être soigné en fonction du degré de gravité de la pathologie qu'il a. Donc j'y travaille. Par ailleurs, ce qui s'est passé aux urgences de la Riboisière est assez inédit, c'est-à-dire qu'en général, les soignants viennent quand même soigner avec un brassard, parce
là,
que nous savons que la continuité des soins... Oui, là, ils se sont mis en arrêt maladie. Ça, je pense que c'est dévoyer ce qu'est un arrêt maladie. Je pense que c'est
quoi,
une
c'est
façon...
pas acceptable, vous dites, ce
non,
matin?
Je pense que ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien parce que ça, en fait, ça accroît la surcharge, ça entraîne une surcharge de travail pour les autres, pour les pompiers, nous l'avons vu à Lons-le-Saunier, ce sont les ambulanciers, ce sont les pompiers, ce sont la médecine privée, les médecins libéraux qui ont pris en charge tous les patients, et donc en réalité, en faisant cela, on accroît la fatigue des autres. Donc aujourd'hui, je cherche des solutions, je travaille avec les urgentistes, je réfléchis aux urgences de demain, je les reçois régulièrement et je les verrai encore d'ici une quinzaine de jours pour préparer l'été. Donc tout cela est évidemment pris en compte. Je comprends l'impatience, mais derrière, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour améliorer la situation.
Vous craignez que ce type de mouvement fasse tache d'huile ce soir, demain, dans les différents centres d'urgence, arrêt maladie pour...
Je pense qu'à la fin, ce seraient les citoyens français qui le paieraient avec un risque vital pour un certain nombre de citoyens. La règle dans le monde médical, c'est que quand on fait grève, on met un brassard, mais on vient travailler pour ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Donc aujourd'hui, il y a des mouvements de grève dans les urgences françaises. Il y a une cinquantaine de services en grève. C'est réglé au cas par cas. Les hôpitaux travaillent avec les services pour trouver des solutions. C'est une cinquantaine de services sur 650 ou 680. Nous sommes totalement mobilisés pour améliorer la situation et notamment nous attendons les prochaines générations de médecins urgentistes qui sont en train d'être formés. Il y en a 400 par an. Et ils vont arriver sur le terrain.
On en a un au standard, justement. Thomas, bonjour, bienvenue à l'antenne de France Inter. Médecin urgentiste, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour. Nicolas Demorand, Léa Salamé.
Bonjour.
Vous parliez de risque vital pour les patients. Il existe d'ores et déjà. Moi, je travaille à l'hôpital de Moulins-Hilbert dans l'Allier. Nous sommes 10 urgentistes pour 26 postes. Ça fait plus d'un an que nous réalisons du temps de travail additionnel et que nous ne parvenons pas à boucler nos plannings. L'ARS vient de nous refuser un hélicoptère pour le département de l'Allier qui aurait pu libérer du temps médical. Qu'est-ce que vous attendez, Madame la Ministre? Et c'est ma question. Pour augmenter l'attractivité des carrières médicales hospitalières et en particulier urgentistes, et également pour former plus de médecins urgentistes, puisque les médecins dont vous parlez n'arriveront sur le marché que dans 2 ans.
Merci Thomas pour cette question. Agnès Buzyn vous répond. Le centre Val-de-Loire, j'ajoute, compte 100 postes d'urgentistes non pourvus, 120 postes vacants pour les Hauts-de-France. Il y a un vrai problème que soulève Thomas. Agnès Buzyn.
Alors la question est très bien posée. Alors d'abord sur le nombre de médecins urgentistes. Donc la génération des internes effectivement va sortir dans 2 ans. Ils sont en train d'être formés. C'est le temps de formation pour avoir des urgentistes. Ça, je ne peux pas le comprimer. Aujourd'hui, le déficit de médecins que nous vivons en France, c'est en fait un phénomène mondial. Donc, je ne peux même pas aller recruter des médecins à l'étranger, puisque tous les pays du monde souffrent aujourd'hui d'un déficit de médecins. J'en ai d'ailleurs discuté avec mes homologues du G7, et ça fait partie des débats à l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous souffrons dans le monde entier d'avoir formé insuffisamment de médecins par rapport au vieillissement de la population, par rapport aux besoins de santé. Donc, en réalité, il n'y a que des organisations différentes qui vont permettre de soulager les médecins, notamment hospitaliers. Après, sur les ressources humaines à l'hôpital, vous avez raison. Aujourd'hui, les carrières hospitalières sont peu attractives. Ça fait partie de la réforme en cours, puisque nous travaillons aujourd'hui pour redonner envie aux médecins d'avoir des carrières hospitalières et pour diversifier les parcours. Ça fait partie de l'ordonnance qui est en train d'être concertée dans la loi santé que je mène. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, peu de gens ont envie de s'engager à l'hôpital, mais en réalité, peu de gens ont aussi envie de la médecine libérale. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une perte de sens des médecins parce qu'ils sont surchargés de travail et c'est très épuisant.
Gaëlle est en ligne. Bonjour Gaëlle, soyez la bienvenue.
Oui, merci. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et à toutes. Je vous appelle parce que en juillet 2018, l'ANSES produisait une étude sur les produits menstruels qui révélait la présence de pesticides, voire de pesticides même interdits en Europe, comme le lindane, de phtalates, de divers perturbateurs endocriniens. Et depuis, plus rien. L'ANSES préconisait que les fabricants soient plus clairs sur la composition et sur le procédé de fabrication. C'est un enjeu pour notre santé, nous les femmes, mais c'est un énorme enjeu environnemental, hein, puisque c'est tous les micro-pesticides.
Gaëlle, mille excuses. On a compris la première partie de votre question, mais la ligne est très mauvaise désormais. Je donne donc la parole à Agnès Buzyn pour qu'elle vous réponde.
Oui, alors je n'ai pas entendu toute la question, mais sur l'impact des pesticides sur la santé. Donc là, vous parlez des pesticides qui seraient en contact avec la peau. Alors ça n'est pas forcément les mêmes conséquences, évidemment, que des pesticides ingérés dans l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons une agence qui s'appelle l'ANSES, qui évalue la toxicité de tous les produits, qui fixe des seuils, des normes, et normalement, les industriels doivent respecter ces normes. Et cela, c'est réévalué chaque année.
La question portait sur la composition des protections périodiques.
Oui, donc ça, c'est toujours en contact avec la peau, en réalité.
Voilà.
Et donc, ça, c'est l'ANSES qui doit effectivement dire ce qui est autorisé ou pas autorisé dans les protections.
Et on saura quand ce sera dit ou
alors,
non.
Aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre exactement sur
c'était
la
ça,
date,
la question
mais
de Gaëlle,
en réalité,
en fait,
c'est réévalué régulièrement. C'est-à-dire, dès qu'il y a de nouvelles données scientifiques, l'ANSES met à jour ses recommandations pour les seuils de toxicité des produits, que ce soit ingérés dans l'alimentation ou que ce soit des produits en contact.
Puisque s'il y a une question de calendrier, ce sera quand la loi bioéthique, ce sera quand, Madame la Ministre?
Alors,
l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ce sera avant la fin de l'année, avant l'été, avant la fin de l'année 2019. Est-ce que vous pouvez prendre des engagements?
Aujourd'hui, l'engagement, c'est d'envoyer ce texte de loi au Conseil d'État dans le courant du mois de juin, de le présenter en Conseil des ministres au mois de juillet. Après, il faut trouver un espace dans le calendrier parlementaire. Et donc, c'est en construction aujourd'hui avec le ministre des Relations avec le Parlement pour savoir à quel moment nous serons en mesure de...
Stanislas Guérini, ce matin, demande à ce que ce soit avant la fin de l'année 2019.
Voilà,
il met la pression
donc,
sur le gouvernement.
Aujourd'hui...
Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement que d'ici la fin de cette année, ça sera
Alors,
voté
moi,
ça
sera Madame Salamé, je souhaite que cette loi passe le plus vite possible. Elle est prête. Les arbitrages.
J'ai l'impression qu'on la repousse un peu parce
qu'on
la repousse après les Européennes parce que c'est un sujet délicat.
Un certain nombre de textes ont été décalés, notamment la révision constitutionnelle. Il y a des textes, urgents qui sont toujours en cours d'examen et qui prennent du temps puisqu'ils vont au Sénat, à l'Assemblée puis reviennent. Donc, en fonction de la capacité que nous aurons à conclure certains textes rapidement au mois de juillet, nous aurons un calendrier parlementaire qui nous laissera de l'espace pour passer cette loi, mais elle est prête.
On retourne au standard rapidement. Michel est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes papa
Merci
d'une infirmière, c'est ça?
Exactement. Alors, c'est ma fille qui est infirmière.
Voilà.
Elle a suivi ses études, donc pour être infirmière, il y a 3 années plus une année de préparatoire, donc 4 années. Ma fille adore son métier, hein, elle adore être avec les patients, les soigner, etc., apporter des soins, être solidaire avec eux. La problématique, c'est qu'effectivement, elle a pris conscience de la réalité de l'hôpital depuis 1 an. Elle est en hôpital, donc il y a un manque criant de personnel. Elle-même travaille souvent à 2, alors qu'il faudrait être 3, peut-être même plus, pour être dans des bonnes conditions de travail. Ce qui fait que pour elle, ça se traduit par des journées très tendues.
Combien d'heures par jour?
Oh, elle arrive à faire facilement au moins 3 heures de plus que ce qu'elle devrait faire.
Donc on est sur 12-13, c'est ça, 12-13 heures.
Elle arrive même à avoir des plannings où, si vous voulez, elle peut travailler le soir et on lui redemande de retravailler le matin pour faire des remplacements ou des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out ou des choses comme ça. Et là, ma fille, en fait, aujourd'hui, elle est tellement épuisée à la fin de ses journées qu'elle est tellement tendue qu'elle est obligée maintenant désormais de prendre presque des cachets pour pouvoir s'endormir le soir quand elle arrive chez elle, et souvent elle arrive à minuit chez elle. Elle a 23 ans et moi je suis hyper déçu parce que c'est quelqu'un qui a la niaque. Elle a envie de réussir et aujourd'hui elle envisage, comme à peu près 50% de sa promotion de l'année dernière où ils étaient 60 dans l'école, à faire autre chose que ce métier auquel ils étaient destinés.
Arrêtez donc éventuellement le métier pour votre fille Michèle alors qu'elle vient à peine de commencer cette vie donc d'infirmière. Merci pour le témoignage. Agnès Buzyn vous répond.
Oui, une réaction d'abord, c'est un magnifique métier. Je pense qu'il est plébiscité par les Français. C'est un métier qui mène à énormément de carrières différentes, en fait, diversifiées. Il y a l'hôpital, bien sûr, avec des difficultés. Alors, je ne sais pas où elle travaille, donc je ne peux pas, évidemment, commenter ses horaires ou ses plannings. Mais il y a des difficultés dans l'hôpital, parfois de recrutement, d'attractivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, dans la loi santé que je passe aujourd'hui, tout un travail sur la gestion des ressources humaines, l'attractivité des métiers. Et puis, il y a les infirmières libérales, les infirmières de pratique avancée, les infirmières de coordination. En réalité, il y a tout un champ de possibles, les infirmières de PMI. Et il faut surtout lui redonner de l'espoir. Je comprends que ces conditions soient difficiles, mais aujourd'hui, la loi de santé vise justement à améliorer les conditions de travail à l'hôpital.
Léa.
Le gouvernement a lancé hier le chantier du revenu universel d'activité, qui a été annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier. Il s'agit d'une fusion des prestations sociales, le RSA, les APL et la prime d'activité. La présidente d'ATD Quart-Monde estime que cette réforme va permettre à l'État d'économiser 6,5 milliards d'euros par an. Or, elle va se faire en enveloppe fermée, donc les associations craignent clairement qu'il y ait des perdants. Comment vous leur donnez des garanties ?
Alors, je ne comprends pas
le non-recours au RSA permet à l'État d'économiser 6,5 milliards par an. C'est ce que dit la présidente d'ATD Quart-Monde.
Aujourd'hui, quand nous parlons d'enveloppe, nous parlons de l'enveloppe prévue, quel que soit le recours. Donc, en réalité, ça va être à enveloppe constante. L'idée de l'État n'est pas de faire des économies sur ces aides sociales, c'est de les rendre plus visibles.
Mais l'État en fait, de fait.
Oui, mais justement, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que les gens aient recours à leurs droits. Donc, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, les gens ne recourent pas à leurs droits parce que les aides sont multiples, il y a de nombreux guichets, les personnes ne savent pas à quoi elles ont droit, et donc c'est un vrai problème et ça aggrave la pauvreté. Donc, dans cette réforme du revenu universel d'activité, nous souhaitons rassembler toutes les aides en une seule aide, plus lisible, pour que les gens y accèdent plus facilement. Nous souhaitons d'ailleurs son automaticité dans le versement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous souhaitons aussi que ces aides soient liées avec un engagement de s'insérer dans la vie active, que ce soit par des activités d'insertion ou par Pôle emploi.
Donc vous avez prévu les 6 milliards de pertes de l'État.
Aujourd'hui, il est hors de question de faire des économies sur les aides sociales. Ça n'est pas le sujet du REA.
On en reste là. Merci Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir été au micro d'Inter.